Ce matin, on va voir un passage biblique. Ah, je vais prendre la petite télécommande. Un passage biblique assez polémique. Parce que vous me connaissez, j'aime bien être taquin. Et c'est quelque chose que j'avais vu avec vous en plus petit comité. C'est une histoire de cheveux courts et de cheveux longs. Oh là, je vois des regards. Oh, c'est une histoire de voile. D'autant que le port du voile a pu faire l'actualité à certains moments en France. Et voilà, ce n'est pas un problème qu'on a dans l'Église, mais c'est un passage qui est riche d'enseignements sur la vision de Dieu et comment Paul aborde le voile par rapport à la communauté chrétienne. J'ai trouvé ça passionnant et je voulais le partager avec vous. Et pour ce faire, je vous invite à regarder en 1 Corinthiens 11, les versets 1 à 16. 1 Corinthiens 11, les versets 1 à 16. Alors, vous allez faire un petit peu de grec ce matin. Juste deux mots de grec, pour ceux qui aiment. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie et qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Je continue au verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Je vois que ça fait réagir déjà. Je vois des pouces et des grimaces. Allez, on continue. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Quand même. Car, ça c'est moi, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Oui. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature même, elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Eh oui, ça va, moi je les perds, donc pas de souci. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Alors, je termine par ce verset, parce que c'est Paul qui le dit. Si quelqu'un se plaît à contester, n'est-ce pas, à Marie, sache que nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Voilà. Que quelqu'un dise Amen. Alors, on voit dans ce passage des expressions qui feraient bondir aujourd'hui. C'est vrai ou pas? Et pourtant, vous allez voir que Paul dépeint une vision de l'homme et de la femme qui est extraordinaire et qu'il nous faut voir ensemble, je crois, pour ne pas se voiler la face. Et mon propos ce matin n'est pas de défendre ce que dit Paul, parce que j'estime que ce qu'il dit n'est pas attaquable. Et souvent, on peut prendre ce passage en se disant comment on va faire avaler la pilule ou comment on va balayer ça sous le tapis, parce que qu'est-ce qu'il est en train de nous dire avec cette idée de voile? Mais Paul n'est pas n'importe qui. C'est un mec bien, il a écrit la moitié du Nouveau Testament, donc c'est costaud. Et on part du principe que son propos est édifiant. Et c'est justement ce qu'on va voir ce matin, voir son propos dans son contexte. Alors évidemment, c'est une lecture qui s'inscrit dans une histoire, l'histoire de l'Église. Et c'est vrai que dans l'histoire de l'Église, la femme n'a pas toujours eu la place la plus juste, que ce soit dans l'Église des premiers siècles, dans l'Église médiévale, ou parfois même encore aujourd'hui. Donc ça fait écho aussi à des souffrances peut-être, ou à des vécus. Cette idée de soumission, d'autorité, de se voiler, d'être sous l'autorité de quelqu'un, voilà, comme s'il y avait un ascendant. Et c'est pour ça que c'est important de le voir ensemble par rapport à la vision de Dieu sur l'être humain, sur l'homme, sur la femme, sur l'Église, sur le voile, sur l'autorité, etc. Alors, je vous propose de laisser le bénéfice du doute à Paul. Et il est évident que si on ne regarde pas au contexte, on trouvera des interprétations qui sont farfelues. Alors, j'ai trouvé une interprétation sur le voile, sur le port du voile, qui dit que si vous portez le voile, vous serez protégé spirituellement. J'ai vu ça. Comme si un bout de tissu pouvait nous protéger d'attaques spirituelles, ou comme si Dieu n'était pas suffisant pour nous protéger. Et ça, c'est un type de pensée qu'on ne va pas prendre, parce que ça ne rend pas compte de ce passage. Alors, si on reprend ce passage, on trouve des expressions fortes. L'homme est le chef de la femme. Ça tique, hein ? Ça pique. Ça pique. L'homme est le chef de la femme. Surtout, dit comme ça. La femme non voilée déshonore son chef. La femme est la gloire de l'homme. La femme a été créée à cause de l'homme. La femme a été tirée de l'homme. La femme doit porter le voile en soumission à l'autorité dont elle dépend, ou certains diraient de son mari. Et en lisant ceci, on pourrait croire qu'il y a un ascendant de l'homme sur la femme. Parce qu'on a l'impression que ça ne va que dans un sens, et que la femme a été créée pour l'homme, et que sa gloire, c'est son mari. Mais de qui la femme est-elle la gloire? Si on va par là, si on essaie de prendre la boucle. Mais on pourrait aussi lire dans ce passage que l'homme, lui aussi, s'il prit la tête non couverte, s'il déshonore son chef, et que l'homme vient de la femme, et que l'homme existe par la femme, et on pourrait aussi prendre l'autre pendant, si vous voulez. Hein, l'homme existe par la femme existe par l'homme, si vous voulez, il y a un peu ces deux aspects-là. Et Paul veut manifestement établir un lien, un rapport sain entre les hommes et les femmes dans l'église de Corinthe, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et je vais faire plusieurs remarques. La première remarque, c'est la formulation de Paul qui dit « l'homme est le chef de la femme ». C'est une formulation que je trouve très forte, parce que le chef, c'est celui qui commande. C'est lui qui décide, qui tranche, et voilà quoi. Quand on se retrouve devant son chef, quand je vais me retrouver devant mon chef là, à la rentrée, je ne vais pas lui dire « ah, je ne sais pas, vos ordres, bon, je verrai ». Non, c'est le chef. C'est pour ça que je trouve que le mot « chef », il est fort, et peut-être trop fort, parce que c'est une idée de soumission et de commandement. Et voilà, je dirais que le mot « chef », il est trop fort, et encore une fois, ça peut faire référence à certains vécus, à certaines souffrances, de dire « c'est toi qui commandes, et c'est toi qui te soumets ». Il y a le chef et celui qui obéit. Alors, ça veut dire quoi, être le chef de la femme? Mais ce qui est important, c'est que Paul dit « l'homme est le chef de la femme, comme Dieu est le chef de Christ ». Vous avez vu cette comparaison? Et cette comparaison nous interdit de placer un rapport inégal entre l'homme et la femme. Parce que Dieu et Christ sont égaux. Parce que Christ n'est pas inférieur à Dieu. Et parce que Christ n'est pas le juste serviteur, le larbin de Dieu. Il est Dieu. Donc, ils sont égaux. Et je trouve que comparer l'homme et le chef de la femme comme Dieu et le chef de Christ nous interdit de placer une position d'infériorité ou de supériorité l'un envers l'autre puisqu'ils sont égaux. Et ça, c'est quelque chose que Paul va poser dans sa comparaison. Et dire l'homme est le chef de la femme comme Dieu est le chef de Christ ne nous permet pas de placer un rapport de commandement entre les deux parce que Christ n'est pas inférieur au Père, les deux sont éternels, bons, justes, etc. Donc, dire l'homme est le chef de la femme n'enlève rien à leur égalité, puisque Christ est l'égal de Dieu, il est Dieu. Alors là, c'est la minute de grec. Un mot de grec. En fait, le mot chef ici, ça va résonner en français pour vous, c'est le mot képhalé. Képhalé, c'est ce qui est relatif à la tête. Céphale. Et de solides théologiens s'accordent à dire que le mot chef est mal traduit ici. Ce serait plutôt le mot tête. Céphalé, céphale, c'est ce qui est relatif à la tête. Et dans les écrits de l'époque non biblique, quand on employait ce mot, ça voulait dire plus tête que chef, si vous voulez. Et de solides théologiens s'accordent à dire que les Corinthiens auraient compris pas chef, mais tête. Vous allez me dire, mais quelle différence ça fait? Parce que la tête, elle est quand même au-dessus. Elle est quand même au-dessus du corps, la partie supérieure du corps. Ben, la différence, elle est énorme dans cette traduction, parce que la tête n'implique pas un commandement. Déjà. Dire « je suis le chef », c'est moi qui commande. Dire « la tête », c'est impulser une direction. Et je trouve que dans le français, ça fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que dans le français, ça fait quand même une différence, non? Mais il y a mieux encore. Ah, parce que bon, tête, c'est quand même au-dessus. Eh bien, la différence, enfin, la meilleure traduction, la plus fidèle que j'ai trouvée, nous vient de Jérusalem. Elle nous vient de la Bible de Jérusalem, qui, elle, va le traduire comme ça, et je pense que c'est l'emploi du bon grec là. Elle va dire « l'homme est la source de la femme ». Ça, c'est la traduction grecque. Dans la Bible de Jérusalem, « l'homme est la source de la femme ». Et quand on prend cette traduction-là qui est vraiment fidèle dans l'idée de direction de provenance, parce que c'est vraiment képhalé en grec, cette idée de la source. Et on est loin du mot chef, vous voyez dans la compréhension. Eh bien, on comprend quoi? On comprend maintenant la comparaison que l'homme est le chef de la femme comme Dieu est le chef de Christ. Christ vient bien de Dieu, il est envoyé de Dieu. Il est égal à lui, mais il est envoyé de lui. Et de la même façon, la femme vient de l'homme parce qu'elle a été tirée de lui. Vous comprenez? Mais ça n'enlève rien à leur rapport d'égalité. Il est juste en train de dire, la source de la femme, c'est l'homme. Ève a été tirée d'Adam. Alors pourquoi dire, Christ vient bien de Dieu? Tu es bien le fils de Dieu? Oui, ma source est le Père, mais je suis égal à lui. Et la femme dit, ma source est l'homme. Mais pourquoi faire cette comparaison? Tout simplement pour dire que l'homme et la femme sont différents. Leurs sources sont différentes parce que les deux sont différents. Ils sont égaux comme Dieu et Christ, mais ils sont différents dans leurs sources quelque part. Et vous voyez, quand on prend une traduction un peu avec des mots chef et commandant, c'est très différent de dire en fait ils n'ont pas la même source tout simplement parce qu'ils sont différents. Je ne sais pas si vous le voyez différemment. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu nous dis ça? Alors ça peut paraître bête, mais il existe encore des bouquins qui expliquent que quand Dieu crée l'homme, il le crée hermaphrodite, homme et femme, avec deux sexes. Récemment, j'ai lu un livre de Chris Vallotton, justement, « Désigné pour régner », où il explique que quand Dieu crée l'homme, il le crée homme et femme, un être, deux sexes. Et que quand il a chuté, il le sépare en deux, masculin et féminin. Ça veut dire qu'être masculin et féminin est une punition. C'est la conséquence de la chute. Mais là, Paul, il nous dit non, ils n'ont pas la même source. Donc s'ils n'ont pas la même provenance, ils n'ont jamais été un être ensemble. En gros, il est en train de dire, ne confondez pas l'homme et la femme. Ce qui m'amène à ma deuxième remarque, pour expliquer pourquoi il dit ça. La deuxième remarque, c'est que Paul va nous parler de la longueur des cheveux. Et il va nous parler du voile. Et il le dit au verset 13 à 16. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, blablabla. Alors il nous dit, l'homme et la femme n'ont pas la même source. L'homme vient de la femme vient de l'homme. Et puis après il nous parle de longueur de cheveux et de voile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà c'est bizarre parce qu'il dit que l'homme ne doit pas avoir de cheveux longs, mais dans l'Ancien Testament il y a le vœu du Naziréa où on se laisse pousser les cheveux. Donc on ne voit pas où est le problème. Et puis par rapport à la femme, ça sort d'où cette histoire de voile? Parce que là, dans le Nouveau Testament, il le dit qu'aux Corinthiens, et on a du mal à comprendre dans quoi ça s'inscrit par rapport à l'Ancien Testament. Mais en tout cas, Paul dit, la femme prend sa source en l'homme, mais il dira aussi, l'homme vient de la femme, et tous viennent de Dieu. C'est ce qu'il dit dans ce passage, donc tout le monde est content à la fin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, la femme a été créée à cause de l'homme, mais l'homme existe par la femme, c'est ce que Paul nous dit, et tous viennent de Dieu. Alors il n'y a pas 36 façons de comprendre ce passage. Peut-être il y en a 36, mais je ne les ai pas trouvées. Il n'y a pas 10 façons de le comprendre, je pense. Je vais le prendre sous un angle ce matin qui va être le suivant. Je vais résumer en fait mon message en une phrase. Juste en une phrase qui est celle-ci. cheveux longs, cheveux courts, voile, pas voile, l'homme et la femme qui n'ont pas la même source, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Je vais donner une clé de lecture et ensuite je vais expliquer pourquoi. Ne confondez pas les genres masculins et féminins. Ne confondez pas les genres masculins et féminins. Ils ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que Paul nous dit qu'un homme doit avoir les cheveux courts, on y parle de sa masculinité. Et une femme, les cheveux longs, c'est sa féminité. Et si elle a les cheveux rasés, elle met un voile pour se rendre féminine. Ne confondez pas les genres masculins et féminins. C'est un problème qu'ils avaient manifestement dans l'église de Corinthe. Mais Paul nous dit, non, en fait, la femme tire sa source en l'homme. Mais l'homme, il vient de la femme. Ils ne peuvent pas être une personne. Ils sont deux personnes différentes. Donc l'homme a des attributs à lui, la femme à elle. Donc leur source n'est pas la même, mais ils sont égaux. Donc ne confondez pas leur genre. Et c'est un message qui est criant d'actualité, je trouve, sur aujourd'hui la théorie du genre, sur, vous voyez, sur parfois les toilettes publiques, on a vu aux États-Unis, il y a homme, femme, et puis entre les deux aussi, avec le sigle, avec à moitié une jupe et puis à moitié un homme. Enfin voilà, c'est ce genre de choses-là. Et je trouve intéressant que Paul nous dit ici, ne confondez pas les genres. C'est pour ça qu'il dit, un homme, c'est une honte s'il a les cheveux longs, et une femme si elle est rasée. Parce que ça parle de leur genre respectif. Donc Paul nous dit quoi? La femme n'est pas un homme, et l'homme n'est pas une femme. Et si la tête rasée lui enlève sa féminité, elle devrait se voiler pour se rendre féminine. Et je trouve que c'est très intéressant, parce que la vision du voile chrétien, c'est dans le cas où on n'a pas de cheveux, c'est de se rendre féminin. Alors que la vision du voile dans d'autres spiritualités, c'est pas ça. Mais la vision du voile chrétien, c'est une femme qui est féminine et qui se rend féminine si elle a les cheveux rasés. Au moins, elle ne perd pas son genre quelque part. Et c'est très différent comme vision du monde et de Dieu et de l'homme et de la femme. Alors pourquoi je dis que ce voile la rend féminine? Parce qu'au verset 15, Paul assimile le fait de porter le voile avec la chevelure. Et pour info, c'est le dernier mot de grec, le mot voile, il n'existe pas dans ce passage qu'avant le verset 15. Avant, il n'y a pas écrit le voile. Donc, les gens l'ont écrit, mais ce n'est pas écrit. Donc le débat, ce n'est pas de savoir s'il faut porter le voile ou pas. Le débat, c'est de savoir comment porter ses cheveux. Et derrière ça, c'est comment être masculin ou féminin. Court ou long, ils doivent être portés pour la femme pour valoriser sa féminité et pour l'homme pour valoriser sa masculinité, pour ne pas confondre les genres. Donc il ne s'agit pas tant de porter le voile pour être plus efficace dans le combat spirituel ou pour être soumis à quelqu'un. Ce n'est pas ça l'idée du voile. Le voile, c'est si tu as la tête rasée, tu te rends féminine en portant un voile. Ou comme il dit au verset 15, sinon ta chevelure fera office de voile. Je ne sais pas si c'est clair. Et une autre chose que je voulais aborder aussi dans ce passage, c'est que Paul dit au verset 10, la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Comme si le fait de porter le voile, c'était se soumettre à quelqu'un. En général, on dit à son mari. Et là, c'est le vrai, de vrai dernier mot de grec que je vais prendre. C'est que, en fait, le mot autorité dans ce passage, il devrait être traduit comme ça. Ce n'est pas l'autorité dont elle dépend, c'est sa propre autorité à elle. Alors, ça fait une différence. Si la femme a les cheveux longs pour être féminine, ou si elle porte un voile parce qu'elle n'a pas de cheveux pour se rendre féminine, elle porte sa propre autorité à elle, pas celle de quelqu'un. Et ça permet d'enlever l'ascendant de l'homme et le chef de la femme, tu te soumets, tu mets le voile, tu te soumets envers moi. Non, littéralement, le mot autorité, il devrait être traduit, c'est son autorité à elle, c'est la sienne. C'est pour ça qu'on parle de ces genres respectifs, hommes et femmes, masculins et féminins. Alors pourquoi Paul parle de cheveux courts? C'est parce que dans l'Antiquité, il y avait des cultes dans lesquels les prêtresses se rasaient complètement la tête pour être des êtres un peu androgynes. Et ces gens, ces femmes rentraient dans l'église, aussi ces prostituées-là, hein, pour ces cultes-là. Il y avait aussi les orgies, donc les genres étaient confondus, si vous voulez. Dans l'Empire romain, c'était très compliqué. Et quand ces gens rentraient dans l'église, ça choquait parce qu'il y avait des gens, des hommes qui se féminisaient et des femmes qui se masculinisaient. Et Paul dit non, ne mélangez pas tout. Ce n'est pas la vision de l'Ancien Testament, ce n'est pas la vision juive de l'homme et de la femme et de l'existence humaine. Donc, pour ne pas vous confondre, vivez vos genres respectifs tels que vous êtes. Et si vous voulez, je vais même aller un peu plus loin que lui, pour moi, il ne s'agit pas d'avoir des cheveux longs ou courts. Je pense qu'une femme peut avoir des cheveux courts et être féminine. Et je pense qu'un homme peut avoir des cheveux longs et être masculin. Parce que ça dépend de la culture, ça dépend de l'époque, ça dépend des codes, ça dépend de plein de choses. Mais l'idée, c'est de dire, il y a quand même des genres que vous reflétez par vous-même et qui fait que si la femme, par exemple, porte un voile parce qu'elle n'a pas de cheveux, elle porte son autorité à elle et ce faisant, elle rend gloire à Dieu. Et c'est un passage capital parce que la société d'Israël, elle était basée sur la famille, sur un nouveau concept qu'il y a un homme et une femme dans une famille avec des enfants. Je sais que ça peut paraître bizarre aujourd'hui. Et il rappelle tout simplement, il y a masculinité et féminité, et que cette base-là était la base de la civilisation juive, et même judéo-chrétienne aujourd'hui. Le mariage homme-femme, et ne pas mélanger les genres. Et l'erreur, justement, qui a été commise dans le passé dans certaines églises, ça a été de mesurer les cheveux, ou mesurer les jupes aussi. On vérifiait, ah, là, il y a un centimètre de trop, attention, je sais, ça sent le vécu, là, je vois des regards. Et là, en fait, on ne comprend pas ce passage. Ce n'est pas l'idée d'avoir des cheveux longs ou courts ou d'avoir une jupe longue ou courte. L'idée, c'est de se dire, est-ce que je porte, moi, en tant qu'homme, ma masculinité ? Voilà, c'est tout, tout simplement. Ou est-ce que je porte une féminité ? Et dans ce cas-là, pourquoi je le fais ? Et est-ce que ça rend gloire à Dieu ? C'est pour ça que masculinité et féminité est aussi en fonction de notre culture, de nos codes et du style de l'époque. Et c'est ce que je voulais aborder avec vous ce matin, parce que c'est typiquement le genre de passage, parfois un peu bizarre, qui, s'il est lu à la va-vite, peut créer un ascendant entre l'homme et la femme. Alors, ce n'est pas du tout le cas ici, hein, mais qui pourrait faire du mal et se faire l'écho de souffrances, de domination ou d'abus, peut-être dans le passé. Et de créer un ascendant qui n'est pas juste, de se dire la femme se soumet à l'homme avec un voile parce qu'elle est inférieure à lui. Non, ils sont égaux. Mais il y a une question de genre qu'il ne faut pas confondre. Et Paul nous dit, vivez dans vos genres respectifs. Assumez-le. Vivez-le pleinement. Vivez-le comme tel. Soyez féminin, soyez masculin, chacun dans son genre respectif. Et là, vous y reflétez la gloire de Dieu. Et c'est une réflexion qu'on doit avoir en tant qu'Église, parce que je pense qu'on est dans une société où les genres ont tendance à s'effacer. Et aussi parce que je pense qu'on pose de plus en plus la question aujourd'hui, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme ? C'est quoi être masculin ? C'est quoi être féminin ? C'est des questions qu'on peut se poser aujourd'hui, et qui allaient de soi il y a peut-être quelques années, mais aujourd'hui c'est des questions qui sont reposées. C'est quoi un homme, c'est quoi une femme ? Et je crois qu'à la fois on est libre dans l'Église de s'habiller comme on veut, selon nos convictions, même au niveau vestimentaire, on n'est pas religieux pour dire qu'il y a un code dans l'Église, on ne fait pas la guerre au style vestimentaire, mais en même temps on ne peut pas réfléchir notre apparence sans prendre en compte l'autre dans sa force et dans sa faiblesse. Un homme qui montrerait ses attributs comme ça à tout bout de champ, qui se dénuderait dans l'Église, on dit mais qu'est-ce qu'il fait là ? C'est ça être un homme ? Non, c'est pas ça être un homme. Puis une femme qui viendrait aussi, pareil, se dénuder parce qu'elle dirait « je suis libre de le faire ». Oui, mais tu cherches quoi en faisant ça ? Est-ce que c'est ça être une femme ? Et on ne peut pas prétendre être libre et faire ce qu'on veut parce que la liberté, elle doit s'accompagner de l'amour et de la compréhension de l'autre sans s'y arrêter pour autant. Si quelqu'un ne comprend pas, on ne va pas tout faire en fonction de lui, mais on va quand même le prendre en considération. Parce que je crois, et c'est la conclusion de mon message, que dans les genres féminins et masculins, il y a une pudeur. Je crois que dans les genres masculins et féminins, il y a une noblesse oubliée aujourd'hui. Et je crois que le point où se rejoignent masculinité et féminité, c'est sur le fait que l'un et l'autre vont se servir mutuellement dans la patience, dans la bienveillance. un mari qui ne commande pas, mais qui, comme le Christ, fléchit le genou devant son épouse et va se mettre à la servir. Et en réponse, l'épouse, ou Christ, qui se sacrifie lui-même pour son Église tous les jours, en fidélité, par amour, et l'épouse, comme l'Église, qui, elle, fléchit le genou devant le Christ aussi pour le servir. Et je crois que le message de l'Église qui est très fort dans le genre masculin et féminin, c'est qu'il y a une noblesse et une pudeur là qu'il faut garder. Il y a une tendresse quelque part dans ça. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça, mais il y a quelque chose qui s'est perdu dans la société. Aujourd'hui, c'est plutôt agressif les genres. On milite, c'est du militantisme, et il y a de l'agressivité. Même le standard de la femme aujourd'hui, on dirait sexy, qu'on voit sur les affiches, et même pour l'homme, c'est dur, c'est tyrannique. Et il n'y a plus cette tendresse, il n'y a plus cette noblesse, il n'y a plus cette pudeur qu'on retrouve dans la Bible où Paul dira « Si tu as les cheveux rasés, féminise-toi. » Ou sinon, que tes cheveux soient ton voile quelque part. Et évidemment, ce curseur-là de féminin et masculin, ce curseur-là de la mode, de la société et des codes, c'est un curseur qui bouge peut-être tous les jours et qu'il nous faut réfléchir avec amour, avec patience, mais surtout pas en tombant dans le piège du légalisme avec les « il faut que », toi tu as les cheveux courts et toi tu as les cheveux longs, les jupes de telle taille et il faut porter le voile et ci et ça. Et je crois que ça c'est terrible parce qu'on passe complètement à côté du message de Paul qui en fait s'inscrit en prolongement de la vision de l'homme et de la femme en Israël. Et c'est un curseur qui bouge tous les jours en fonction des modes, des codes vestimentaires de notre époque. Et si le curseur est amené à bouger un jour dans notre église, il faut en parler avec amour, avec patience, avec bonté, avec tendresse, en fidélité à l'enseignement biblique. Et je crois que ce qui est chouette dans notre église, c'est qu'on jouit de cette liberté-là. Je crois qu'on peut venir comme on est, coiffé, décoiffé, ce que vous voulez. Mais parce que je crois qu'il y a cette tendresse-là et cette liberté qui s'accompagnent ensemble. On accueille les cultures, on accueille les différences culturelles, on accueille cette richesse extraordinaire, tant qu'elle ne choque pas l'autre, mais tant aussi qu'elle correspond à la liberté de chacun de venir tel qu'on est, homme ou femme, et de s'épanouir dans ça. Et vous voyez, l'idée du voile dans la Bible, c'est l'idée que la femme va s'épanouir encore plus dans sa féminité. Ce n'est pas pour la brimer. C'est ça aussi le message de Paul, et c'est complètement différent de certains messages qu'on entendrait aujourd'hui. Alors que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié de ce que nous nous assumons comme tels, hommes et femmes, et que nous soyons bénis dans ce qu'il nous appelle à vivre en tant qu'hommes et femmes dans l'Église et comme témoignage dans la société d'aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment, comme je le répète encore, cette tendresse, cette noblesse dans nos genres que le monde a besoin de voir, d'expérimenter ces modèles-là, parce que comme dit Paul, là on porte notre autorité et surtout on rend gloire à Dieu. Et j'en ai terminé.